La 18e édition du festival MuTech se tiendra du 20. La 18e édition du festival MuTech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes, dont Daphne, Aurora Halal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performance audiovisuelle, soirée drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
Choc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la deuxième édition du concours de documentaire sonore Le réel à l'écoute. Vous êtes un créateur sonore canadien et vous travaillez sur des œuvres francophones, c'est votre chance de remporter plus de 1000 $ de prix et une place dans la programmation des RIDM 2017. Vous avez jusqu'au 31 août minuit pour soumettre votre projet sonore de 10 minutes maximum. Pour participer ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet Le réel à l'écoute.
Hey, les shows de Ruelle reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la Claire Ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deluxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide d'Hochelaga cet été, alors manque pas ça!
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Le Festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette édition 146 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de thèmes, beaucoup de trucs à dire. C'est une petite boîte qui comporte énormément de secrets et que je trouve qui est vraiment agréable à aborder. On va parler de quelque chose qui a commencé gris et qui est tranquillement devenu une autre couleur et qui est passé un peu vers le bleu et ainsi de suite. J'essaie de faire comme si c'était un grand mystère, mais vous l'avez probablement vu sur votre descriptif de podcast qu'on va parler de Nintendo. Il y a quelque chose de très intéressant à parler d'une console. Je trouvais, j'ai toujours été très attendri par l'idée que l'Atari était le premier outil qui nous a permis d'interagir avec la télévision, de vraiment prendre ce que la télévision nous donnait et dire, voyons voir, je veux changer, je veux altérer ce qui se passe à l'écran. Puis le Pong, pour le meilleur et pour le pire, est vraiment cette brèche-là. C'est la première fois qu'on avait cet écran-là qui, normalement, nous réduisait à une force passive. On avait un feedback, puis on disait, ah, attends, je peux juste changer cette ligne-là, mais je peux au moins changer cette ligne-là. Et au moins je peux changer cette ligne-là est très important, très pertinent et très puissant à notre époque. Maintenant qu'on est tous des prosumers, maintenant qu'on est tous des consommateurs culturels et qu'on, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on fait est renvoyé dans le monde. Fait que c'est très, très, très important de parler de ces consoles qui sont des petites boîtes magiques, d'abord et avant tout. Bon. Je vous l'ai toujours dit, je suis pas la meilleure personne pour parler de jeux vidéo. Je trouve ça super intéressant. Je suis très curieux par rapport aux jeux vidéo, mais je suis pas du tout la meilleure personne pour en parler parce que je suis très en retard, premièrement, sur tout. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'expliquer c'est quoi les spécificités, les paramètres de chacun des périphériques. Pardon, j'allais dire périodiques, c'est les réflexes académiques, que voulez-vous. Et une fois de temps en temps, je me fais un peu dépasser par qu'est-ce qu'on peut faire avec les trucs. Ça fait que je suis très content d'avoir Chris Chauncey. Salut!
Salut, ça va bien?
T'es vraiment la meilleure personne au monde pour moi en termes de l'émission. T'as toujours été là pour être capable de simplifier, placer, vraiment là. Merci. Merci
oh, je l'apprécie, merci Jim.
Qui aujourd'hui, dans sa voie de devenir chargé de cours.
Oui.
Félicitations, c'est vraiment cool.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et une personne que ça fait longtemps qui aurait dû faire partie de l'équipe, Dominique Arsenault, tu viens de publier un livre ou qui va sortir.
Oui, ça sort en ce moment, là, dans les jours qui suivent.
Au MIT Press.
Yes.
Sur.
Alors, c'est un livre qui porte sur la Super Nintendo.
La Super, OK, sur la SNES, carrément.
Ouais, okay. La Super NES, la Super Nintendo, la Super Famicom au Japon. C'est un livre qui porte là-dessus, mais qui, en général, travaille l'histoire de Nintendo à travers la Super Nintendo.
OK.
Donc, voilà le titre, Super Powers, Spoonie Bards and Silverware, The Super Nintendo Entertainment System. Un titre assez difficile d'approche, assez énigmatique, mais...
Ouais, Spoonie System, là, je vais t'admettre que...
Spoonie Bard.
Spoonie Bard.
Yes.
Spoonie Bard, c'est un mot qui te dit rien parce que tu n'as pas joué à Final Fantasy II quand c'est sorti sur la Super Nintendo en 91. C'est une réplique célèbre.
Je
un personnage mal traduit, évidemment, du japonais. C'est une insulte qu'il profère à un barde, un personnage qui est un barde dans la fiction.
Okay.
Et il dit « You Spoonie Bard ». Puis là, on est censé trouver ça bien insultant. Mais ce mot-là ne signifie pas tant la cuillère. C'est vraiment un mot qui existe en anglais. C'est un archaïsme.
Ouais.
Et c'est être « spoonie », c'est être sentimentalement en amour à un point ridicule.
Wow!
Donc, to be foolishly enamored or in love with something.
Fait que ça fait 37 secondes que tu es à l'émission, tu viens déjà de nous apprendre quelque chose.
Un mystère percé. Et les Spoonie Bards, qu'est-ce que c'est pour moi? J'ai utilisé ce mot-là pour décrire le rapport à la culture que les gens ont envers leur console de jeux vidéo.
Absolument!
Donc, ton laïus au début, comment tu es fasciné, émerveillé par les consoles et tout ça, c'est exactement l'attitude d'un Spoonie Bard. Nous sommes les chantres qui chantons les mérites de nos consoles de jeux vidéo. On est en amour avec eux alors que c'est des boîtes qui cassent, des machines qui prennent de la place sur nos tablettes, qui prennent des prises de courant dans les prises électriques, qui sont LED, que notre mère, notre blonde, notre chum nous demande de ranger, dans lequel notre chien s'enfarge. Bref, c'est un paquet de troubles des consoles. Et pourtant, on les adore. Mais en fait, qu'est-ce qu'on aime dans une console?
Aïe, aïe, OK, c'est une approche Cronenberg, Marshall McLuhan, un petit peu, wow, c'est quelque chose. Comment est votre... C'est drôle, c'est comme une amorce vraiment facile, là. La SNES classique, est-ce que vous êtes super content ou est-ce que vous êtes comme bouf? Comment l'annonce de la sortie de cet objet-là?
C'est quand même un petit peu excitant. C'est sûr que ça pue un petit peu la passe de cash de la part de Nintendo parce qu'ils vont faire comme chaque console de même, un après l'autre, ça a l'air, là. Mais n'empêche qu'ils vont trouver les collecteurs puis ça va trouver son marché, là. Mais si c'est il risque d'avoir le même problème qui est arrivé avec la NES classique, par exemple, c'est qu'ils vont en faire beaucoup ou pas assez.
Ah, OK. Et pour toi, Dominique, est-ce que c'est le genre de truc qui va aider avec la sortie du livre? Ou ça va être le fun de pouvoir lire le livre pendant qu'on a ça à notre disposition?
C'est sûr que moi, quand j'ai entendu qu'ils allaient sortir la SNES classique là, je me suis dit, mon Dieu, quel timing parfait, parce que ça fait juste rendre visible la Super Nintendo. Et la Super Nintendo, c'est une console qui a toujours existé, qui est saluée comme étant la meilleure console de tous les temps par plein de blogs, plein de sites de gaming et tout ça. Elle fait les palmarès de façon récurrente. Les gens sont en amour avec cette console-là. Et quand Nintendo annonce la SNES classique, ça nous énerve qu'ils en feront pas assez. Ça nous énerve qu'on va savoir qu'elle existe, mais qu'on sera pas capable de l'avoir, parce qu'on sait qu'on sera pas assez chanceux pour en avoir une copie, peu importe. Mais je pense que c'est tout à fait cohérent, puis je pense que Nintendo vont continuer à passer là-dedans, mais peut-être pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Hein, je pense que les consoles, la NES classique, la Super NES classique, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup de copies. Premièrement, ils n'ont pas décidé de faire ça, c'est parce que Nintendo ne sont pas propriétaires des usines qui font la manufacture, qui font la fabrication des consoles comme telles. Ils font affaire avec des sous-traitants. Et ces sous-traitants-là, évidemment, ils ont des calendriers de production qui peuvent être assez complexes et qui ont souvent ennuyé, d'ailleurs, dans l'histoire de Nintendo. Donc, on a l'illusion que Nintendo est une espèce de méga corporation, un super empire qui contrôle tout de A à Z. Ils veulent tout contrôler la chaîne du marketing, mais ils s'occupent pas de la fabrication technologique.
C'est bien intéressant, ça.
Puis ça, c'est une chose que j'ai voulu faire dans mon livre. Dans le fond, c'est de montrer comment, quand on parle de l'industrie du jeu vidéo, on présente ça, puis on a un modèle en tête. C'est ce qu'on appelle le modèle du First Party Platform Provider. Donc, un développeur de matériel qui fabrique les consoles, Sony, Microsoft, qui fabrique la console. Et après ça, il y a d'autres firmes qui sont des entreprises qui font du software, des développeurs logiciels, qui font des jeux pour la plateforme. Puis ça, c'est l'idée du marché du jeu vidéo. Or, cette idée-là, elle a une histoire. Elle n'est pas arrivée dès le début. Chez Atari, c'était pas comme ça. Chez Sega, c'était pas comme ça. Chez Nintendo, c'était pas comme ça. Et c'est toujours pas comme ça chez Nintendo. Donc, quand on parle d'industrie de jeux vidéo comme ça, ça fonctionne très bien pour Microsoft, ça fonctionne très bien pour Sony, mais ça fonctionne pas pour Nintendo. C'est pas ça qu'eux, ils font. C'est pas leur modèle d'affaires. Et c'est une des choses que j'ai voulu expliquer dans le fond dans mon livre, comment ils ont un modèle d'affaires complètement différent. Ils jouent pas la même game que Microsoft ou que Sony. Et donc, il faut trouver un autre terme pour en parler. Et ce que j'ai proposé dans mon livre, c'est une entreprise qui est une self-party. Donc, c'est une entreprise qui est auto-partite, au lieu d'être première partie, pour faire une plateforme et attirer des développeurs externes. Non, non, Nintendo sont là pour faire des jeux. C'est pas une compagnie de technologie, c'est une compagnie d'entertainment. Et c'est le président, l'ancien président Nintendo lui-même, Hiroshi Yamauchi, qui disait ça lui-même. Nous sommes une entertainment company, on veut entertainer tout le monde, des jeunes, des adultes et tout ça. Et donc, pour Nintendo, l'important, c'est de faire des jeux. Et la console, c'est juste une façon de s'assurer qu'ils vont maintenir le contrôle sur le marché du jeu. Wow. Et donc, ils ne seront pas dépendants d'un propriétaire de plateforme externe.
C'est impressionnant, en fait, ouais. À quel point ça a été aussi bon pour eux de prendre ce modèle d'affaires-là, parce que c'est sûr que se battre contre des géants comme Sony puis comme Microsoft, leurs poches sont infinies. Mm-hmm. Nintendo n'a pas des poches infinies. Ce qu'ils ont, par exemple, c'est parmi les meilleurs designers au monde de jeux, puis ils ont toujours été forcés à réinventer comment ce qui approche le jeu. Par exemple, quand que tout le monde se battait pour avoir les meilleurs graphismes là, à l'ère de PS3, puis Xbox One, puis tout ça, ben, ce que Nintendo a fait, ben, on va réduire la qualité graphique de nos jeux, puis on va sortir la Wii, qui est juste une nouvelle manière d'interagir. Puis mm-hmm. là, encore une fois, ils l'ont refait avec la Wii U, encore une fois, ils le refont avec la Switch. Fait que, ils ont eux vu que, comme tu dis, tout ce qu'ils font, c'est des jeux, puis ils font ça super bien.
Ouais.
Ils ont été comme poussés à réinventer un peu la manière qu'ils font les jeux pour être capables de compétitionner avec les gros. Puis quand on parle de géants de l'industrie, Nintendo fait partie de la discussion, alors qu'elle devrait pas, si on regarde ça de manière financière, ouais. Du moins.
Mais elle fait partie, elle fait classe à part.
Oh, oui, c'est le top. Jeux vidéo,
puis eux autres. Oui, non, mais même pas qu'elle déclasse, mais ils sont carrément pas en compétition, c'est eux autres.
Clairement, they are their own boss. Mm-hmm. Ils font tout de manière Nintendo.
Exactement. Ouais. Osamu Inoue, c'est un auteur japonais, Osamu Inoue, qui a écrit un livre qui s'appelle Nintendo Magic, dans lequel il cherche à expliquer les secrets derrière la gestion d'entreprise de Nintendo. Le livre est très intéressant et c'est un peu la perspective d'un journaliste qui dit « Moi, je vais percer le mystère Nintendo ». Et son préambule, c'est de dire « En fait, Nintendo ne parle pas de comment ils gèrent leur entreprise et pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils ont l'impression que les gens ne comprendront pas de toute façon. »
Oh, ouais.
Donc, Nintendo, on fait nos affaires. Et moi, comme historien de jeux vidéo, c'est une des choses qui me préoccupait, c'est-à-dire que l'histoire du jeu vidéo, quand elle s'intéresse à Nintendo, elle se fie sur 4 ou 5 témoignages qui viennent de Shigeru Miyamoto, le designer star, ou de Hiroshi Yamauchi, le président dictateur de Nintendo. Et on a 5-6 citations qui reviennent constamment et qui sont respinées constamment, mais on n'a pas d'informations qui sortent de là parce que c'est une corporation secrète.
OK, vraiment, c'est vraiment, carrément. C'est pas parce que les gens sont pas au courant, c'est qu'il y a un secret de polichinelle autour de cet empire-là.
Mais en fait, c'est le contraire d'un secret de polichinelle, c'est vraiment un secret. Oui,
excuse-moi.
Ouais. Puis je vais en parler un peu tantôt, mais le fait que c'est autant justement secrétif, ça a joué contre aussi Nintendo à certains moments dans leur histoire, parce que justement, pour avoir une panoplie de jeux qui se font pour une console, bon, Nintendo a pas des milliers, ils ont probablement des milliers d'employés, mais ils ont pas des millions d'employés. Puis pour avoir une grosse gamme de jeux différents, il faut souvent faire affaire avec un tiers parti, par exemple, des développeurs de jeux vidéo, comme moi chez ma compagnie, par exemple. Puis c'est pas facile de développer pour Nintendo parce qu'ils sont très 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 stricts sur leurs spécifications pour pouvoir porter un jeu sur leur console. Puis les gens qui ont la chance d'avoir un dev kit pour leur console sont très peu.
Ah.
Ouais.
Puis le dev kit, c'est ça pour les gens qui à la maison qui sont pas tout à fait au courant.
Donc, dans le fond, vu que chaque console ont comme leur spécificité graphique, ils ont leur spécificité de mémoire et des choses. Il y a comme plein de choses que le développeur doit contourner pour faire rentrer son jeu dans la petite boîte, si on veut. Là. Il nous faut un dev kit avec justement toutes ces spécificités-là pour que nous on puisse tester ce qu'on appelle un build dans le fond. Là, qui est comme essentiellement le jeu sous sa forme exécutable.
C'est ça, il faut que tu changes les paramètres pour fitter la
exactement,
console.
Exactement, ouais. Exactement. Fait que là, par exemple, justement, un jeu qui serait porté dans le temps sur PS3, Xbox One, puis sur la Wii, mais sur la Wii, lui, il fallait qu'il rentre tous ses graphismes, mettons, en bas de 1.5 gig, tandis que la Xbox One puis la PS3, eux autres, ça pouvait être 30 gig, il n'y avait pas de problème. Fait que tu vois, ce genre de spécificité-là, il faut que ça se teste, évidemment, parce que porter un jeu, ben, tu veux pas juste genre l'envoyer à eux autres pour qu'ils le fassent à leur bord, t'sais.
Oui, puis en même temps, il faut que tu aies leur autorisation.
Ben, c'est ça le problème, en fait, puis Ben, moi, je peux m'en parler maintenant. En fait, dernièrement, moi et ma compagnie, on a fait un contrat de service pour Borealis Games, pour leur nouveau jeu qui est sorti, qui s'appelle Mages of Mistralia. Mm-hmm. Un super jeu, coté 9 sur 10. C'est vraiment comme un excellent jeu. Puis on a essayé de faire affaire avec Nintendo pour avoir un dev kit pour la Switch, parce que on a fait un Kickstarter pour ce jeu-là, puis le Kickstarter fonctionnait tonnerre, puis tout le monde demandait est-ce que... Parce qu'on l'offrait sur PS4, sur la Xbox, puis sur PC. Puis là, tout le monde nous demandait, est-ce que ça serait possible de l'avoir pour la Switch? Puis nous, de répondre, ben, on aimerait bien pouvoir vous dire que oui, sauf que ça fait plusieurs fois qu'on contacte Nintendo, puis c'est silence radio total. Puis ce qui est vraiment drôle là-dedans, en plus, c'est qu'il y avait un gars de marketing qui travaillait chez Borealis, qui est un ancien employé de Nintendo of America. Puis il y a plein de plugs là-bas, puis il envoyait des courriels, il envoyait des appels, puis tout ce qu'il disait, c'est... On a envoyé ta demande. Attends. Puis ils l'ont toujours pas reçu encore, leur autorisation.
Toi, Dominique, après avoir fouillé comme ça te surprend pas?
C'est super cohérent.
Ah.
C'est super cohérent. Puis toutes ces pirouettes-là, toutes ces attitudes-là font partie de l'ADN profonde de Nintendo depuis la NES en 85. Donc, pour moi, là, la chose la plus importante que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est parce que mon livre s'inscrit dans une collection à la presse du MIT qui s'appelle les Platform Studies. Okay. Les Platform Studies, c'est une étude d'une plateforme. L'Atari 2600, la Sega Dreamcast, name it. Donc, chaque ouvrage est dédié à ces objets-là. Et l'approche privilégiée par les deux universitaires qui ont lancé la série puis l'approche des Platform Studies, Nick Monfort puis Ian Bogost, c'est de dire il faut analyser l'aspect technique de la console pour comprendre comment la plateforme influence, si on veut, les œuvres créatives mm-hmm. qui apparaissent, les jeux qui sont développés pour ces plateformes-là.
Ouais.
Donc, l'angle technologique est toujours étudié à fond. Or, il y a trois chercheurs canadiens qui ont écrit un livre en 2003 qui s'appelle Digital Play, par ailleurs. Stephen Klein, Nick Dyer Whitford et puis Peter j'oublie son nom, Greg DePuter, voilà. Donc ces trois auteurs-là qui écrivent Digital Play disent en fait l'histoire du jeu vidéo est composée de quoi? C'est une industrie composée de trois circuits: la technologie, la culture puis le marketing. Et ma réaction initiale quand j'ai entendu ça à l'époque, c'était de dire, voyons, marketing, tu sais, le jeu vidéo, c'est un art, là, ça n'a rien à voir, le marketing, c'est juste une considération secondaire. Et puis, quand je me suis penché sur l'histoire de la Super Nintendo, je me suis dit, au fond, la Super Nintendo, c'est quoi? C'est une boîte technologique banale, mal foutue, mais c'est surtout un système commercial. Et Nintendo, c'est d'abord une entreprise qui a un modèle d'affaires différent, et tous les choix technologiques qu'ils font répondent au modèle d'affaires qu'ils ont. Donc, c'est le modèle d'affaires, l'affaire numéro un qui distingue et qui explique toutes les affaires de Nintendo, c'est la business. Donc ça, j'ai voulu détailler ça dans le livre, puis essentiellement, l'attitude envers les développeurs externes vient de là. Nintendo faisait des jeux, Nintendo ont fait une console pour pouvoir fermer leur marché et pouvoir tenir, dans le fond, les conditions d'opération de leur marché. Quand ils ont sorti la NES en 83 au Japon sous le nom de la Famicom, la Family Computer, tous les développeurs externes voulaient faire des jeux pour leur machine parce qu'ils avaient réussi à créer une machine qui se vendait vraiment pas cher et qui amenait très peu de profit, mais qui pourrait se disséminer rapidement dans les mains de millions de Japonais. Mm-hmm. Et après, ils pourraient faire des jeux, puis c'est en faisant des jeux qui feraient de l'argent. Mm-hmm. Le fameux modèle qu'on appelle comme étant le modèle Gillette là, pour les rasoirs et les lames, là, parce que c'est un standard dans l'étude économique, puis dans les modèles d'affaires, puis dans le marketing. On parle du modèle Gillette comme étant Gillette, le fabricant de rasoirs, qui vendait ses rasoirs pas chers ou même les donnait pour pouvoir, après ça, faire de l'argent sur les lames qu'il vendait dans un deuxième temps.
Ouais.
Ça, c'est le modèle qui explique par excellence l'industrie du jeu vidéo qu'on voit aujourd'hui chez Microsoft, chez Sony. Ils font leur console, ils vendent la console à perte, parce que, par exemple, Microsoft perdait plus de $100, je pense, sur chaque Xbox 360 qu'il vendait au consommateur. Donc, le consommateur, on lui demande de sortir $300-$400 pour acheter une console, c'est déjà un acte de foi.
Ah oui.
Mais en plus, ça coûte beaucoup plus d'argent à fabriquer puis distribuer tout ça pour le fabricant. Donc, le fabricant est déficitaire en vendant la machine, il subventionne la machine, comme pour les vendeurs de téléphones cellulaires. Mm-hmm. Et après ça, on va faire de l'argent dans les jeux vendus, ce qui oblige les fabricants de consoles à avoir beaucoup de jeux qui vont être offerts. Et eux, ils licencient finalement, ils donnent une permission aux développeurs externes en disant « Tu veux faire un jeu sur l'Xbox? Fine. Moi, je vais prendre $10 ou $12 par copie du jeu que tu vends. Et moi, je vais faire mon argent comme ça. Je vais rentabiliser mon développement de la console comme ça. » Mais ça, il faut que tu en fasses des jeux. Il faut que tu vendes 7, 8, 10 jeux par propriétaire de console pour arriver dans ton argent pour faire du profit. Mais Nintendo, c'est pas ça qu'ils font. En 83, au Japon, quand ils sortent la Famicom, ils vendent ça pas cher, mais l'idée, c'est qu'ils vont faire une console, puis eux vont vendre les jeux pour leur console. Il n'est pas question qu'ils permettent à d'autres développeurs de vendre des jeux directement. Et ça, c'est le problème avec l'analogie du modèle du rasoir. Un article que je cite qui est brillant là-dedans démontre le modèle du rasoir et des lames en disant, attendez, là, c'est pas facile de dire je vais vendre un rasoir ou je vais le donner gratis, puis après ça, je vais vendre des lames. Ça marche seulement si tu es capable de contrôler ton rasoir pour empêcher qu'une autre firme puisse se dire, ben moi, je vais juste vendre des lames, puis je m'embêterai pas du rasoir, je vais juste faire de l'argent, puis hop. Donc là, ça prend un mécanisme pour fermer le marché, pour obliger les gens à acheter seulement les lames que toi, tu fabriques. C'est toute la logique d'une industrie, ce qu'on appelle standard-based, là, donc basée sur un standard, par exemple les VHS. Tu fabriques un lecteur VHS, tu vends ton lecteur VHS à profit, fin de l'histoire. Là, quand tu fabriques une console de jeux vidéo, c'est pas pareil. Là, il faut que tu fabriques une machine que tu vends à perte. Fait que là, il faut que tu rentres un standard technologique là-dedans fermé pour obliger les compagnies externes à faire affaire avec toi, signer une entente, puis à ce que chaque jeu vendu va te rapporter de l'argent à toi. Nintendo, ils disent, nous, on fait un standard pour nous-mêmes. On est autosuffisant, on fait la console, on fait des jeux, that's it. La NES a un succès phénoménal. Ils sont pas capables de fournir assez de jeux pour répondre à la demande. Et là, ils sont face à deux choix. Et ça, si vous voulez avoir toute l'histoire de la Famicom, de la NES, il faut aller vers l'ouvrage de Florent Gorge, édité aux éditions Pix & Love ou chez Omake Books. Il fait une série qui s'appelle l'histoire de Nintendo en 7, 8, 9 volumes, on sait pas. Wow. C'est encore en cours. Mais les premiers ouvrages portent sur l'histoire de Nintendo avant la NES, l'histoire de Nintendo au moment de la NES, et ainsi de suite. Bref, il faut se tourner vers le volume 3 sur la Famicom ou la NES.
Le volume 3?
Oui, le volume 3. Parce
que, 1 et 2, comme la Genèse, c'est le premier. Le deuxième, ça doit être la NES, puis la
SNES. Parce que Nintendo est une entreprise qui existe depuis plus de 100 ans.
Mais oui, ils vendaient des cartes au début.
100 ans?
Ils vendaient des cartes. C'est ça comme ça qu'ils ont commencé.
Ben comme en CCG, là?
Non, ils vendaient des cartes à jouer dans un jeu japonais traditionnel, exact. Là, les cartes de Hanafuda. Et ils ont été les premiers à obtenir l'autorisation de Disney pour avoir des jeux de cartes occidentaux qui reproduisaient les personnages de Disney, ce qui leur a permis de redéfinir le marché des cartes à jouer pour en faire un marché qui s'adressait à toute la famille, aux enfants, puis tout ça.
Oh, wow!
Ce qui est incidemment la même affaire qu'ils ont fait avec le jeu vidéo. Et avec la NES, c'est exactement ça. Ils ont redéfini le marché du jeu pour que ça s'adresse seulement à des enfants. Là, il y a plein de lignes de fuite, puis là, il va falloir qu'on
Mais c'est bien correct. Hein, c'est un sujet large, puis c'est sûr qu'on allait divaguer comme ça. Mais justement, le fait qu'ils vendaient des cartes partout à travers le Japon, ça fait que leur réseau de distribution avait été construit dès le départ avec ça. Ils ont même fait des jouets pendant un petit moment. Ils ont fait leur première foray dans les consoles. C'était comme un handheld qui s'appelait Mr. Game & Watch, qui était justement un petit jeu à deux boutons que tu peux, dans le fond, prendre puis jouer. Puis c'est ça, puis après ça ils ont sorti la NES, mais la NES à ce moment-là il n'y avait pas de compétiteur parce que les gens n'étaient pas capables de distribuer aussi rapidement puis aussi efficacement que Nintendo était capable de le faire.
Le réseau était fait pour eux autres.
Exactement.
En fait c'est ça, quand ils ont sorti la NES au Japon, il y avait plein de machines, plein de consoles, plein de fabricants, c'était l'anarchie. Donc il y avait des dizaines de plateformes qui étaient en compétition, des ordinateurs personnels, des consoles puis tout ça. Mais quand eux ont sorti leurs consoles, ils ont été capables de la fabriquer pour tellement pas cher qu'ils ont mis ça sur les tablettes. C'était un ordinateur personnel domestique qui était plus puissant que les autres ordinateurs pour une fraction du prix. Les gens revenaient pas. Donc toutes les entreprises ont dit, je veux faire un jeu sur la Famicom. Nintendo dit, voyons donc, on va pas vous laisser faire un jeu pour notre machine. C'est comme si on sciait la branche sur laquelle on est assis. Les mots du président Hiroshi Yamauchi. Donc pas question qu'on vous sent à personne. Or, la demande des consommateurs est importante. Ils n'ont pas l'expertise pour faire tellement de jeux. Donc, ils font face à un choix. Ou bien on grossit à l'interne, on développe plein d'équipes de production, puis on fait plein de jeux. Mais ça, c'est prendre un risque à long terme. Ou bien, on commence à ouvrir au compte-gouttes puis à faire des partenariats stratégiques avec 5 ou 6 entreprises japonaises, ce qu'ils ont fait, qui ont développé des jeux sous des conditions tyrannesques.
Donc,
vraiment là, c'était vous faites maximum 3 jeux par année. Il faut que vous en fassiez au minimum 100 000 copies. Il faut que vous payiez cash vos copies à l'avance. Vos copies vont être fabriquées par nous. C'est nous qui fabriquons les cartouches pour la machine. C'est nous qui détenons l'appareil, donc c'est nous qui décidons. Et vous êtes obligés de nous payer ça d'avance, cash. On vous donne ça, vous vous organisez pour la distribution.
Pis c'est quoi ces jeux-là?
Alors, les premiers jeux qui ont été faits, en fait, venaient de 5 ou 6 firmes. Là, j'ai fait la liste à l'époque quand j'ai fait la recherche, mais je n'en rappelle pas par cœur.
Ouais.
C'était Bandai, c'était Namco, c'était les grands noms, finalement, de l'arcade. Hein, parce que le marché de l'arcade existait déjà depuis une dizaine d'années au Japon. C'était déjà assez un secteur important.
70,
le marché de l'arcade commence en 74, 75, 76, 77. Et c'est les gros jours de l'arcade. C'est l'arrivée du jeu vidéo au Japon par l'importation des machines occidentales et le développement de Space Invaders, qui est vraiment le grand succès japonais par Taito, qui était un des développeurs aussi initiaux pour la NES.
Okay.
Bref, dans la première vague de développeurs privilégiés, ils leur donnent plus de privilèges. Donc, plus ça avance, plus ils mettent des conditions drastiques pour les prochains signataires qui veulent développer des jeux pour la Famicom. Mm. Ça a obligé Nintendo à faire des choix. Comment ils sont arrivés à faire une console qui coûte 10 fois moins cher que la compétition puis qui est 3 fois plus puissante? T'sais, je veux dire, si tout le monde était capable, tout le monde ferait ça. Donc, comment ils ont fait? C'est qu'ils ont pris des technologies qui étaient déclassées, des technologies en fin de vie, et ils les ont configurées dans un arrangement compliqué. Donc, au lieu de faire une architecture standard avec un processeur puissant, après ça, de la mémoire puissante, et ainsi de suite, ils ont mis un petit peu de mémoire configurée de telle sorte qu'elle sert seulement à faire des graphismes. Une architecture avec une puce dédiée au calcul des graphismes séparés. Donc, ils ont pris des vieilles puces qui étaient en fin de vie, qui étaient utilisées pour des calculatrices ou des équipements de seconde classe, au lieu d'aller chercher l'équipement de haute technologie. Ils ont fait affaire avec les restants, les restes de table, essentiellement, et ils ont configuré ça dans un arrangement complexe. Donc, quand ils ont sorti la console, ça leur donnait un double avantage. Ils payaient presque rien pour le hardware.
Les pièces coûtaient rien, ouais.
Les pièces coûtaient rien. Et en même temps, ça leur donnait une avance sur tous les autres fabricants qui voulaient développer des jeux pour la Famicom. Ils l'ont ouvert, la machine, ils ont fait « Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas comment ça marche. » J'ai aucune idée comment faire un jeu là-dessus. Ça leur a pris un an à faire de la recherche puis du développement.
C'est pour ça que ça prend un dev kit, absolument.
Exactement. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Nintendo. On fait le hardware pour nous. Nous, on utilise le hardware et les autres se débrouilleront s'ils veulent faire des jeux sur notre plateforme. Mais notre plateforme n'est pas faite pour les autres, elle est faite pour nous. Nous sommes donc une self-party firm et pour nous, les développeurs externes sont des compétiteurs potentiels qui vont nous empêcher de vendre nos jeux à nous. C'est complètement le contraire avec Sony, par exemple. Sony, ils ont fait la PlayStation. La grande innovation qui a expliqué pourquoi ils ont gagné avec la PlayStation, c'est qu'ils ont développé une console pour les développeurs externes, avec une structure de distribution, le CD-ROM, qui était flexible, qui était facile. On pouvait faire un jeu risqué expérimental, le distribuer à 10 000 copies, faire un essai, puis rajouter des copies au fur et à mesure qui étaient fabriquées en CD-ROM en 24 heures. Alors que chez Nintendo, tu veux faire un jeu, il va falloir que tu commandes 100 000 copies, ça va prendre 6 mois avant que ça arrive. Faut quasiment que tu appelles l'oracle qui va te faire des prédictions pour savoir si ton jeu va se vendre dans 6 mois, tu sais.
C'est drôle que tu mentionnes Sony justement parce que la PlayStation avait initialement été développée par Nintendo avait contracté Sony pour développer une console CD-based. Et donc, la PlayStation aurait tout aussi bien pu être une console de Nintendo. Sauf qu'au dernier moment, je pense, même juste après qu'il ait montré un gros show technologique, le CES, je pense, Nintendo a rompu le contrat. Ils sont décidés d'aller voir Philips à la place, qui était une autre compagnie de technologie, qui ont développé... C'est quoi la console de Philips? Le 3DO, c'est ça?
CDI.
CDI. Puis Sony, un peu amer de ça, en fait, ben nous, on va pas lâcher ce qu'on a, notre travail est bon, c'est cool ce qu'on a fait, fait qu'ils ont décidé de partir leur propre compagnie qui était la PlayStation.
C'est comme ça que ça
ben, la division PlayStation.
Ouais. Aïe, aïe.
Fait que c'est Nintendo qui s'est tiré dans le pied, qui se sont créé un compétiteur monstre avec Sony en faisant ça.
Ouais, mais ça aurait pas. J'ai l'impression que ça aurait été inévitable à un certain point. J'ai l'impression qu'il fallait que ça. Qu'il y ait ce type de. Ben là, je vois.
Comme il mentionnait, c'est vraiment inévitable en fait, mais encore une fois, la mentalité de Nintendo, ça restait de garder tout à l'interne puis d'avoir un contrôle absolu sur ce qui sortait en fait comme console. Les cartouches, c'était mieux pour eux parce que je pense que même sur la SNES, dis-moi si je me trompe, mais il y a comme une chip qui était seulement délocable par Nintendo. Donc, même si toi, tu voulais façonner comme une chip puis la mettre dans un SNES, ça marcherait pas parce qu'il y avait comme une chip qui bloquait l'accès.
Qui reconnaissait
que c'était pas official.
Ben, c'est ça, parce que moi, avoir été un adolescent à cette époque-là, je me rappelle du débat de qu'est-ce qui est en train de se passer avec Nintendo. Ils sont encore sur la cartouche. L'avenir est clairement dans le CD. Mm-hmm. L'avenir est clairement... Ça a évolué, ce débat-là.
Puis tu peux écouter des CD de musique sur ta PlayStation. Ouais, le format CD, il permettait beaucoup plus de choses que le format cartouche. Là.
Ça intégrait tu t'achètes pas juste une console, tu t'achètes un lecteur Blu-ray aussi.
Ça rentrait aussi en même temps un peu comme dans la démocratisation de ces outils-là. Là, je veux dire, même la musique qui commençait à se faire downloader ou des choses comme ça. Ouais. On arrive pas mal dans cette ère-là avec le PlayStation.
Mais là, Nintendo a tenu leur pied, puis ils ont. Ils ont peut-être pas gagné, mais ils ont quand même gardé une position de prestige.
Oh, absolument.
C'est incroyable.
Oui, vraiment.
La résilience de Nintendo s'explique difficilement quand on regarde, quand on regarde les choix qu'ils font, mais en fait, elle s'explique facilement quand on regarde leur modèle d'affaires. tu sais, un petit peu plus tôt, tu disais, Chris, Nintendo n'ont pas full d'argent. En fait, ils ont vraiment beaucoup d'argent liquide disponible là demain matin.
OK.
Okay. Puis ça, c'est vraiment atypique, là. Donc, la chose qui différencie Nintendo des autres fabricants de consoles, c'est que les autres fabricants de consoles sont des divisions, tu l'as dit tantôt, mm-hmm. Sont des divisions dans des entreprises technologiques. Hein, Sony, ils font toutes sortes de bébelles technologiques, puis ils ont une division pour les PlayStation. Division PlayStation, perd de l'argent, c'est pas grave, ça s'en va sur la corporation mère. Puis là, il y a toutes des jeux de pouvoir là-dedans, puis tout ça. Nintendo sont leurs propres patrons, ils répondent à personne. La stratégie chez Nintendo, c'est qu'on développe des consoles à faible puissance, qui sont fermées, qui sont hermétiques, qui sont complexes, donc on a de la difficulté à attirer des développeurs externes, mais ça fait notre affaire, parce que nous, on est là pour vendre nos jeux à nous. En ayant le contrôle sur la console, ils ont le contrôle sur les quantités, sur la fabrique et sur le manufacturing. Donc, vraiment, ils sont les seuls qui sont capables de dicter « on va faire des copies de ci pis ça, on va faire tant de copies de notre jeu ». Nintendo ne vend jamais leurs jeux à rabais. Ils shippent toujours beaucoup moins de copies qu'ils ne devraient le faire pour répondre à la demande, parce qu'ils savent que s'ils shippent autant de copies que les vendeurs et les magasins leur commandent, ils vont se ramasser avec des excès sur le marché. Et les boutiques comme EB Games, Toys R Us, peu importe, vont les mettre à rabais pour s'en débarrasser, pour avoir d'autres copies qui vont rentrer. Quand les jeux arrivent à rabais, oh, c'est une spirale, les gens se mettent à attendre des réductions, etc., etc. Vous voulez acheter Kirby Superstar qui est sorti en 2010, aujourd'hui, cherchez-le, vous allez l'acheter plein prix. À peu près, là, parce que, je veux dire, des copies à l'usager, ça circule difficilement. Mm-hmm. Les magasins en ont presque pas. Et on répond tranquillement au compte-goutte à la demande. Même stratégie pour la NES Classic, Super NES Classic. Donc, leur modèle d'affaires leur permet de faire ça. Et quand ils se sont lancés dans l'aventure du CD-ROM, parce qu'ils ont essayé de faire ça, c'était en 88, quand une console très très puissante au Japon, mais qui a floppé ici, la TurboGrafx-16, mm-hmm. qui s'appelait la PC Engine au Japon, quand la PC Engine est sortie, c'était une console qui est venue avec un CD-ROM en 89. Dès en 89, on a fabriqué un CD-ROM, c'était en avance et tout ça. Nintendo avait même pas envisagé de faire une suite à la Famicom, ils voulaient juste garder la Famicom, faire de l'argent avec ça, puis c'est terminé. Ils ont été obligés de sortir, en fait, ils ont été obligés d'annoncer une Super Famicom. Ils ont dit, oh, on va faire une nouvelle console, ça va s'appeler la Super Famicom. Tout ce que vous aimez de la Famicom, mais super.
Ouais, c'est ça.
Puis je veux dire, ce buzzword-là, super, a été réutilisé sur tout. Et donc, ils n'avaient pas de projet. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire une console juste pour faire de l'ombre à la PC Engine. La Super Nintendo n'a jamais été pensée, calculée, prévue. Ça a été une console bricolée à la hâte pour répondre aux transformations du marché. Et dès le début, ils avaient l'idée de faire un CD-ROM pour la machine, parce que le CD-ROM, c'était l'avenir. La PC Engine venait de sortir un CD-ROM. Nintendo ont fait des conférences de presse en disant « Nous autres aussi, on va avoir un CD-ROM. » Ils ont commencé à faire un partenariat avec Sony. Le partenariat avançait, le développement avançait. Et il y a toute une histoire légale complexe et compliquée avec Philips, qui a fait en sorte qu'ils ont fini par dire « Ben, finalement, notre CD-ROM, on la fera pas avec Sony, on va la faire avec Philips à la place et tout ça. » Mais tout ça s'inscrivait dans une stratégie mûrie et réfléchie à long terme chez Nintendo de faire des consoles qui feraient plus que juste des consoles de jeux. Okay. Donc, c'est assez pété quand on y pense, mais dès les années 80, Nintendo disait « La Famicom va se connecter sur un réseau en ligne, puis vous allez pouvoir, par une espèce de pré-internet, là, une connexion par satellite, vous allez pouvoir manipuler vos actions en bourse, vous allez pouvoir parier sur des courses de chevaux. Il y a des accessoires, le Satellaview qui sont sortis sur la NES, sur la Super NES au Japon. Il y avait le Nintendo Channel qui vous proposait un canal dans lequel vous aviez des nouvelles sur Nintendo et vous aviez des jeux disponibles en ligne entre 6h et 7h le dimanche pendant 2 semaines ou 3 semaines. Vous aviez Zelda, une nouvelle aventure de Zelda qui était disponible.
Y a eu des comment trucs... on connectait ça? Je comprends pas.
Ah, écoute,
ils ont trouvé quelque chose.
Là-dedans,
ah wow! Ouais, excuse-moi, c'est...
Mais je veux dire, ils avaient vraiment la vision de faire la machine de jeux vidéo qui ferait partie du multimédia.
Ouais.
Le fameux idéal du multimédia que l'ordinateur a fini par reprendre début, milieu des années 90 avec le CD-ROM, hein, qui est arrivé comment dans les ordinateurs? Pourquoi les gens se sont achetés des CD-ROM pour leur PC? Pour jouer à Myst, Seven Guests, Rebel Assault, mm-hmm. et ainsi de suite. Les jeux vidéo qui ont été le fer de lance de ça. Puis après ça, on s'est habitué à l'idée que un CD-ROM, ça, on pourrait écouter de la musique sur mon ordinateur, ça va être cool, là, tout ça.
Les gens qui avaient tout vu ça.
Ils avaient tous vu ça, ils avaient milité, ils avaient travaillé pour faire ça. Ils ont fait un partenariat avec AT&T aux États-Unis pour sortir... Ben en fait, ils ont sorti le X-Band, là, qui était un modem qui nous permettait de jouer à Street Fighter en ligne, en payant à minute, puis tout ça, tu sais, c'était vraiment visionnaire, mais bon. Et finalement, ils ont abandonné le train. Pourquoi? Parce que dans leur partenariat avec Sony, ils voulaient que Sony fasse un CD-ROM pour la Super NES, et ils voulaient que Sony fasse un CD-ROM propriétaire. Donc, un boîtier plastique dans lequel il y aurait un CD, mais qui serait une cartouche, dans laquelle il y aurait une lockout chip. qui protégerait la console puis qui éviterait que les gens puissent faire des copies piratées des CD-ROM. Mm-hmm. Sony ont dit ah non, on va mettre plutôt d'encryption de données puis on va mettre juste un hardware chip dans le Super NES comme tel, tu sais, qui va protéger la console. Puis là Nintendo ils aiment pas ça quand ils maîtrisent pas le format. C'est pour ça qu'ils ont jamais voulu faire du CD-ROM. Ils ont dit si on fait des CD-ROM, les CD-ROM sont fabriqués par Sony, sont fabriqués par Philips. On rentre pas là-dedans nous autres, les cartouches. On protège ça, on contrôle ça de A à Z, c'est nous autres qui décidons. Wow. Quand ils ont fini par adopter des supports optiques, là, ils n'ont pas adopté le CD-ROM hein, avec la GameCube, ils ont pris le mini-disque Nintendo GameCube, qui est un format propriétaire. Oh. Et même dans la Wii, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire sur la Wii? Regarder un film en DVD.
Ah, c'est vrai.
Ils voulaient pas payer pour ça. Ils voulaient pas que... Non, non, la Wii, ça lit les disques de Wii. C'est tout.
Puis ça contredit un peu leur truc de multimédia, c'est juste qu'ils voulaient... S'il y avait eu la possibilité de faire un plugin ou quelque chose qu'on branche sur la Wii pour...
Je me demande si, puis tu pourrais sûrement nous répondre, est-ce que c'est à cause que Sony est rentré sur le marché puis que eux, justement, la console qu'ils offraient était tellement probablement plus vaste que ce qu'eux étaient capables de faire à ce moment-là qu'ils ont un peu abandonné l'idée, justement, de faire du multimédia?
Alors, l'idée du multimédia est un peu morte avec le CD-ROM pour eux, quand ils se sont rendus compte, avec le CD-ROM qui était le bon exemple, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas contrôler la chaîne de production du CD-ROM, parce que ça sort de leur expertise technologique. Ah. Fait que là, ils se sont dit, bon, on a deux choix, comme au temps de la Famicom, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on grossit à l'interne, on adopte le CD-ROM, puis là, boum, on en fait, puis on le maîtrise, puis on le loue, tout ça. Ou bien on continue à faire affaire avec des sous-traitants à l'externe pour la production. Puis eux, ce qu'ils ont fait, puis leur choix de toujours, ça a été de faire affaire avec des sous-traitants à l'externe et de jamais se marier à aucune technologie. Donc, évidemment, l'idée là, d'absorber un fabricant de semi-conducteurs, par exemple. À l'époque où les cartouches, les jeux sont distribués dans des cassettes, en dedans, on fabrique des semi-conducteurs, des transistors, des chips et tout ça. Alors, l'idée de base d'une corporation normale, c'est de dire, bon, ben, on attrape de la dette, puis on achète des usines, puis on grossit à l'interne, puis on fabrique nous-mêmes les cartouches comme ça. Hey, on fait bien plus d'argent. Nintendo, on dit non, non, parce que si on fait ça, on se marie à la cartouche, on se marie au semi-conducteur, puis après ça, ben, on est pris avec quand la technologie est déclassée. Puis eux, ils misent toujours sur des technologies en fin de vie. Donc, la raison pour laquelle ils sont capables d'avoir des consoles qui vendent à profit ou sans encourir de pertes, puis ça, ils sont les seuls à faire ça. La raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils achètent les fins de ligne, hein, les technologies en fin de ligne, que Ricoh ou d'autres manufacturiers disent « Bon, ben on a ce vieux processeur-là, puis on sait plus quoi faire avec. Bon, ben moi, je vous réserve votre production. Vous allez me fabriquer 6 millions d'unités pour ma console ou pour ma cartouche d'un Kong Country ou bon, peu importe. » Donc, ils placent une super grosse commande et le fournisseur dit « OK, fine, moi, je bloque toutes mes chaînes de production puis je vous nourris entièrement, exclusivement de ça. » Du moment où eux, ils investissent dans la recherche et développement pour être à fine pointe de la technologie, ah, ben là, ils sont plus capables de faire ça. Ils sont plus capables de jeter ces processeurs-là du jour au lendemain quand c'est passé de mode, ou quand les CD-ROM disparaissent, ou quand les cartouches disparaissent, puis maintenant, c'est la mémoire flash, ou bon, peu importe. Donc, on se marie pas à la technologie, on reste petit, on reste agile, on profite des fins de ligne technologiques parce qu'on n'est pas une entreprise technologique, on est une entreprise d'entertainment.
On reste petit, on reste agile.
Et tout dépend du business model, comme je le disais. La raison pour laquelle ils font ça, tout leur business model, pourquoi ça tient debout cette affaire-là, puis Microsoft pourrait pas faire ça, c'est qu'ils vendent leur console en faisant de l'argent ou en n'encourant pas de pertes. Alors, en faisant ça, ils n'ont pas besoin de vendre des dizaines de copies de jeux par propriétaire de console pour rentabiliser la subvention qu'ils ont donnée pour leur console. Non. Ils peuvent prendre leur temps, ils peuvent sortir leur un jeu de Mario, leur un jeu de Zelda, leur pas de jeu de Metroid, et ainsi de suite. Ils prennent leur temps, le marché est à eux, ils ont fermé la porte du marché. Donc, ils contrôlent tout.
C'est sûr que le petit danger, justement, versus peut-être un Microsoft, comme tu disais tantôt, c'est Microsoft a d'autres divisions qui peuvent combler, justement, une perte. Mais il y a quand même eu, il me semble, un bout dans l'histoire probablement plus récente, justement, de Nintendo. Est-ce que ils ont fait un peu un flop, peut-être, avec la Wii U, là? Puis je pense même que le président de la compagnie a décidé de chopper de moitié son salaire en prenant pleine responsabilité pour
le... Wow!
Mais c'est quand même, tu sais, c'est coté en bourse, Nintendo, là. C'est un big deal de business, particulièrement au Japon. Fait que je me demande aussi, tu sais, c'est comme un high risk, high reward comme stratégie aussi, tu sais.
Ben, tu sais, il y a deux façons de voir ça. Dans le fond, c'est-tu un high risk, high reward de grossir, de prendre de la dette, puis d'avoir, tu sais, pas de liquidité, d'être toujours endetté, mais bon, oui. Avoir quelque chose qui, à long terme, on pense que ça va payer. Ou est-ce que c'est un high risk, high reward de ne pas investir dans les technologies quand elles se développent, tu sais? Puis c'est un peu ça le, c'est un peu ça le calcul qu'ils font, je pense. Le calcul qu'ils font, c'est si on investit dans une technologie avant que ça lève, ça marche, mais on va investir dans combien de technologies qui lèveront pas, puis ça va-tu compenser? Tandis que si on est versatile puis on se marie jamais une technologie, ben si dans 6 mois il y a autre chose qui a été classée, évidemment ça va marcher. Mais évidemment, il y a rien qui fonctionne toujours, hein. Puis tu te soulevais avec la Wii U, ils ont des problèmes. Mmh. Et leur problème vient de où? Et ça, c'est assez pété, mais j'avais lu une analyse en ligne, mais je me souviens pas de quel journaliste techno qui disait ça. Les problèmes de Nintendo sont maintenant des problèmes d'approvisionnement pour les pièces, alors qu'avant, leur stratégie fonctionnait. Et la façon que la stratégie fonctionne, c'est qu'ils disent à un fournisseur, moi j'achète 6 millions d'unités, mais s'ils veulent vraiment s'assurer que le fournisseur va leur donner la marchandise, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent tout en liquidité. Donc, ils ont une trésorerie de 11 mmh. milliards de liquidités.
OK.
Quoi?
Tu sais, puis Osamu Inoue dans Nintendo Magic souligne ça, là, d'ailleurs. Ben, le livre date de 3 ans, c'était 11 milliards de liquidités, donc maintenant, ça doit être rendu 8, parce qu'ils ont perdu plein d'argent. Puis là, les nouvelles disaient, oh mon Dieu, Nintendo est sur le bord de la faillite, ça marchera pas, regardez comment leur console se vend pas. Puis là, il faut leur dire, allô, Coco, la console se vend pas, ça change rien.
Ils ont tellement pilé de cash, ouais, c'est ça.
Ils ont pas besoin de vendre 12 jeux par console, fait que, tu sais, ils sont pas en danger pantoute. Mais, il y a un risque à long terme, c'est qu'à un moment donné, leur image de marque en souffre, puis que les gens arrêtent d'associer Nintendo comme étant le gaming. Ça, c'est le danger à long terme.
Exact. Ouais.
Mais à court terme, ils ont des problèmes maintenant avec l'approvisionnement de leur console. Pourquoi? Parce que leur console utilise les processeurs déclassés, les composants technologiques qui sont plus faibles, hein, qui sont pas le dernier cri. Et il y a tout un secteur de production qui utilise ces composants-là dans des appareils miniaturisés, les téléphones cellulaires.
Oh!
Et maintenant, ils compétitionnent pour acheter la production. Ils débarquent, ils disent, regarde, moi là, j'ai 11 milliards de liquidités. Fait que les 6 millions d'unités que je veux pour fabriquer des Switch, là, j'ai besoin de telle composante. Je les achète cash, puis je te paye tout de suite. Pendant 20 ans, là, tu disais ça à un fournisseur, il disait « Ah, super! Moi, je bloque ma chaîne de production, puis problème réglé. T'sais, après ça, on pense au futur. Ah, ben là, maintenant, c'est plus comme ça. Parce que là, le fournisseur, il dit « Ouais, mais t'sais, j'ai Apple aussi qui veut que je fabrique des téléphones. J'ai Samsung, j'ai d'autres clients. Je peux pas juste mettre toutes mes œufs dans ton panier, Nintendo, même si je t'aime beaucoup. Mm-hmm. » Là, ils ont des problèmes d'approvisionnement, puis c'est ce qui mène au problème de manufacture, à mon avis, de la NES classique, puis de la Super NES classique. Ils ont besoin des chips qui sont en fin de vie, qui normalement posent pas de problème, mais il y a plein de téléphones de scrap et ouais. d'autres électroniques nowhere, des bébelles, là, des jouets que vous trouvez au Toys R Us ou même au Dollarama, qui ont une composante électronique cheap dedans, qui pourrait servir à faire une NES classique ou une SNES classique ou même une N64 classique quand ça va sortir. Puis là, ils sont en compétition envers tous ces autres fabricants-là, puis là, oh, soudainement, ils ont de la misère à s'approvisionner. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une stratégie, ça aurait été de grossir à l'interne, dire on investit, on crée notre propre usine, puis on fabrique nos propres composantes, mais c'est complètement un autre business que celle qu'ils ont. Puis ce qui a fait leur succès, c'est qu'ils ont toujours resté petits. Ils sont toujours restés petits pour continuer à se spécialiser uniquement dans les jeux qu'ils font. D'ailleurs, en 91, ils avaient déclaré 1,5 million de profits par employé. Ah. Et ça avait fait le tour des manchettes dans l'actualité de la business. Tout le monde disait, c'est quoi cette entreprise-là? Qu'est-ce qui se passe?
91, c'est quoi? C'est la sortie de quoi?
91, c'est la sortie de la NES en Amérique du Nord, mais c'était 2 ans après la Game Boy. Game Boy, là, on sous-estime ça, là, le marché des
consoles portatives. Le handheld, il est vraiment... C'est Nintendo au top, il n'y a personne qui a vraiment réussi à côté. Il y avait PlayStation Vita qui avait essayé, justement, de venir chercher une partie du marché, mais n'empêche que ils ont toujours gardé... garder le cap là-dessus. Puis en fait, la Switch, c'est borderline l'aboutissement de toute leur expertise de console et de handheld mis en un, en fait. Fait quoi? Ça, c'est vrai qu'ils ont toujours été pas mal le monopole pour tout ce qui est handheld.
Tout ce qui est portatif. Mais ouais. Là, encore, le téléphone cellulaire est aussi un peu
exact,
en train de manger ce côté-là.
C'est le problème. Puis là qu'on a vu Super Mario Run qui sort sur iOS, ça, c'est vraiment un choc des plaques tectoniques. Que Nintendo sorte un de ses jeux sur la console... Ben, en fait, c'est pas une console de jeu, c'est même pire qu'une console de jeu. C'est le rival aux consoles de jeu de Nintendo, là. T'sais, les consoles portables, là, c'est ça qui se fait manger par le cellulaire.
Au E3 cette année aussi, c'était la première fois que j'avais la gueule à terre. Nintendo s'est associé avec Ubisoft pour faire Mario vs. Rabbids,
oui.
Qui est un genre de XCOM mélangé avec Mario, où est-ce que c'est comme un jeu stratégique avec des guns...
Avec les lapins crétins.
Avec les lapins crétins d'Ubisoft.
Au grand plaisir de mon fils Nathan, qui écoute peut-être l'émission. Salut Nathan! Mais ça, ouais, ça nous permet de trouver quelque
chose. Ça m'a terrassé parce que j'avais jamais imaginé que Nintendo... Puis même, tu sais, en plus, t'as comme Yves Guillemot avec Shigeru Miyamoto qui sont là, des deux, des guns dans les mains, genre super. Ah! C'est grosse affaire. Là. Ça, c'était le hit de l'E3, d'après moi. Puis ça montre justement peut-être une nouvelle ouverture, justement, parce que la compétition se fait de plus en plus féroce.
Ouais. Ah, c'est vraiment fondamental comme moment. Moi aussi, j'ai regardé ça, je disais, ça se peut pas. Ouais. Là, je regarde... Ben oui, mon Dieu, OK. Fait qu'il y a vraiment un changement complet de stratégie. Puis on l'avait vu dans le trailer pour annoncer la Switch. Qu'est-ce qu'on voyait en Occident? Le trailer pour la Switch, Skyrim, qui était partout. Ben, les gens sont à jouer à Skyrim de Bethesda. Puis là, tu dis, attends, c'est pas un jeu first party. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on cherche vraiment à changer l'image puis à annoncer qu'il va y avoir un support puis qu'il va y avoir des développeurs externes puis que la librairie de jeux va être complémentée par d'autres gens. C'est la première fois vraiment que Nintendo met de l'avant des partenariats externes comme ça. Et je pense que c'est un signe qu'ils réalisent qu'à un moment donné, ça va être le cul-de-sac pour eux. S'ils font juste s'auto-reproduire, là...
Hein, ben, de faire, comme tu disais, toujours un Zelda, toujours... Il y aura toujours un Mario Kart, il y aura toujours... Ça, il y a... C'est drôle parce que, bon, encore à la perspective de l'externe, je pensais que si... C'était comme ça qu'ils survivaient. T'sais, comme tu dis, ils n'ont pas besoin de vendre deux jeux. Fait que si tu achètes la console de Nintendo pour jouer aux Zelda, parce que tout le monde capote sur le dernier Zelda, eux autres sont corrects dans leur argent. Il y a une partie de moi qui se dit ah ben ça fonctionnerait pas pour trois compagnies, mais ça fonctionne pour elles parce qu'ils ont à la fois des propriétés intellectuelles qui sont super amusantes, mais qui ont la composante nostalgique dans le piton. T'sais, tout le monde veut retourner à le premier feeling de sa première partie de Mario Kart et tout. Mais là, je suis comme... Vous m'avez gonflé le cœur pendant toute l'émission. Je suis comme... Ils sont incroyables, c'est extraordinaire qu'ils se font. Puis là, non, là, ils sont en train de changer. Puis pour vous, c'est...
Ben, c'est inévitable.
OK, c'est ça. C'est pas comme un colosse qui vient de tomber.
Dominique, tu l'as dit tantôt, leur image à long terme souffre en ce moment un peu. Justement, depuis peut-être GameCube ou Wii, il n'y avait pas beaucoup de contenu qui sortait justement sur les nouvelles consoles. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'acheter à partir de la GameCube parce que la GameCube, j'avais été déçu par le nombre de jeux qui étaient sortis. La Wii, il n'y en avait pas tant plus. La Wii U, encore moins. Puis là, même maintenant sur la Switch, tu sais, il y a effectivement un effort pour aller chercher des tierces parties, mais il n'y a quand même pas une énorme bibliothèque de jeux.
Mais la Switch, elle a quoi, 3 mois, 4 mois?
Ouais, non, plus que ça. Là,
ben,
ça
un
là,
petit peu plus.
Ouais, on est rendu ensemble, presque 8 mois.
Je l'ai dit en introduction, je suis un peu en retard sur tout. Là,
non, c'est ça, puis ça commence, puis il y a des bons jeux sur la console, mais la Switch est encore là. Il n'y a pas un catalogue comme PC ou comme PS4 ou comme Xbox, parce que PS4 et Xbox sont une game de faire affaire avec les indies, tandis que Nintendo, même si maintenant ils ont une ouverture pour les tierces parties, ça reste des Bethesda ou ça reste des Ubisoft. Mm-hmm. Mettons, moi, ma compagnie, je pourrais pas faire probablement un jeu avec Nintendo. Ils me regarderont même pas, ils vont rire dans ma face. Puis même Borealis qui ont quand même fait un jeu qui a coûté plusieurs millions de dollars. Là, genre, c'est un jeu de grande envergure pour un indie, du moins. Même eux, ils ont de la misère à avoir un pied dans la porte. Fait qu'à long terme, qu'est-ce que ça va faire, tu sais? Est-ce que moi personnellement, j'ai pas acheté de Switch. Ouais. J'ai des amis qui n'ont, j'ai joué par la bande de toute façon, je me suis intéressé quand même là.
Salut Alexandre.
Mais j'ai pas acheté la Switch, je suis encore réticent à l'acheter, puis je me demande encore si je vais acheter des consoles de Nintendo juste à cause de ce fait-là, tu sais. Puis je suis un gamer aguerri quand même.
C'est ça, puis c'est des jeux extrêmement agréables.
100%, je veux dire, le dernier Zelda a raflé tout, il va rafler tous les prix. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Du peu que j'y ai joué, c'était masterful. Puis encore une fois, on revient à ce qu'eux, ils font bien, Nintendo, c'est des jeux.
Ouais.
Ils ont toujours protégé leur marque, mais il y a une bonne raison pour ça, parce que... Les jeux qui sortent, c'est toujours de la qualité. Puis ce saut de qualité-là, ça fait que les gens sont prêts à acheter une Switch avec la promesse de un jeu parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à la sortie de la Switch.
Ouais.
Puis c'est correct. C'est ce qu'ils font de mieux. Mais à long terme, est-ce que ça reste sustainable de refaire des Mario Kart, puis des Mario Kart, puis des Mario Kart, puis... T'sais, un nouveau Zelda qui a un nouveau monde, ça c'est comme big chunk, c'est correct, c'est bon, mais eux ils sont pas capables de créer des Zelda comme ça à toutes les années, ils ont pas l'infrastructure pour faire ça, t'sais.
Exactement.
Mais ça soulève la question, bon, j'ai appris que Nintendo a 100 ans, ils pensent à des trucs comme l'internet.
Oui, 15 ans avant que ça arrive,
ben, 12 ans avant que ça devienne partie prenante de toutes les logis de l'Amérique du Nord. est-ce qu'il y a la possibilité, j'ai comme pratiquement les frissons à vous poser la question, là, est-ce qu'il y a la possibilité que leur game plan est tellement fort, que c'est tellement des gens qui comprennent que on ne peut pas concevoir leur plan actuellement? Est-ce que vous voyez comme, ah non, ils ont quelque chose dans la manche?
Moi, je dirais que Nintendo va toujours exister sous une forme ou une autre. C'est une compagnie qui a réussi à innover encore et encore. À chaque fois qu'une nouvelle console sort, eux autres, ils sortent quelque chose d'autre pour compétitionner. Ils ont sorti les Amiibo, qui sont des petits jouets que tu peux justement comme plugger dans la nouvelle console pour avoir des nouveaux personnages à l'écran. T'sais, ils ont jumelé toute leur industrie ensemble justement pour être capable de faire des grandes choses. Puis ils vont continuer à faire ça tout le temps. Moi, personnellement, en tant que gamer hardcore ou genre en tant que heavy gamer, parce que je joue à énormément de jeux, moi je suis un petit peu de reculons avec Nintendo pour l'instant, juste en attendant de voir, ok, la nouvelle ouverture avec les tierces parties, c'est cool, mais votre catalogue de jeux, ça va être quoi pour que j'investisse un 400$ sur la console, puis ça puisse me rentabiliser genre 1-2 ans au moins, tu sais.
Et pour toi, Dominique, c'est-tu à peu près la même chose ou c'est différent?
Ben là, j'ai un peu oublié la question initiale parce que là, j'écoutais Chris puis il y a plein d'affaires, tu sais. Mais essentiellement, je pense que Nintendo, ils ont des stratégies, ils ont un plan, ils sont pas du tout déconnectés. Je pense que leur plan va fonctionner encore pendant des années, sinon à jamais.
Vraiment.
Essentiellement, ils changent pas fondamentalement leur modèle d'affaires. Hein. C'est une grosse transformation, mais c'est une ouverture. Mais cette ouverture-là, elle est contrôlée. Hein. Comme tu disais, Chris, on s'ouvre, oui, à des externes, mais pas trop. Là. On va pas laisser Robert Pelloni, Bob, le gars qui sur Internet disait Bob, il faisait un jeu qui s'appelait Bob's Game. Il disait, moi, je fais mon jeu, c'est un RPG, je le fais tout seul. j'ai mis 15 000 heures à travailler là-dessus. C'est un RPG pour DS, puis Nintendo veut pas m'envoyer un Software Development Kit parce qu'il considère que je suis un particulier. Il a fait une grève de la faim. Il a, tu sais, en tout cas. C'est l'exemple parfait, tu sais. C'est ce qui illustre. Nintendo, ils veulent pas faire avec des individus, avec des petits studios broche à foin, tu sais, whatever. C'est comme, non, grosse corporation. C'était comme ça en 83 avec la Famicom puis la Super NES. C'était pareil. On veut faire affaire avec des grosses business, des gens qui ont des reins solides, qui vont faire 100 000 copies. Et, tu sais, that's it. Donc, l'innovation débridée, ça les intéresse pas. C'est de l'innovation qui est configurée d'une certaine manière. Puis, essentiellement, moi, la trajectoire que j'ai poursuivie dans mon livre, c'est de montrer comment la Super Nintendo, c'est une console qui s'est définie par sa résistance à l'innovation. Donc, ils se sont battus contre toutes les transformations technologiques qui avaient lieu dans les années 90. Puis, il y en a qui vont dire qu'ils ont gagné, mais non, ça, c'est une lecture rétrospective de l'histoire qu'on a trippé sur la Super NES. Du moins sur ce qu'on retient de la Super NES, puis qu'on se dit, waouh, c'était génial, c'était parfait, puis tout ça. Mais dans les faits, quand on regarde ça, leur part de marché n'ont que cessé de décroître à partir du sommet de la NES, à travers la Super NES, à travers la Nintendo 64, à travers la GameCube, jusqu'à l'arrivée de la Wii. Donc, leur stratégie fonctionne, mais il y a des limites. Mais ils sont assez versatiles pour l'ouvrir un peu. Ils vont pas complètement reconfigurer leur stratégie, mais ça va marcher quand même. Ceci dit, moi, la chose que je trouve la plus importante pour Nintendo en ce moment, puis qui peut-être va se concrétiser de plus en plus, c'est le gaming intergénérationnel. Donc ça, c'est vraiment le créneau qu'ils poursuivent, d'après moi, en ce moment. Je vois ça dans la publicité de Mario Maker qui était sorti. Mm-hmm. Est-ce qu'on voyait quoi? Un papa puis son garçon qui sont là devant la Wii U. Puis là, le garçon, il joue à Mario Maker. Il fait un tableau en version New Super Mario Bros. Donc, avec des graphismes 3D puis tout ça. Un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans. Puis là, son papa, il prend ça puis oh, il met ça en mode Super Mario Bros. Il dit, rétro, là. Puis il dit, ah, ça, c'est plus mon genre. Je pense que l'explication de Raving Rabbids, par exemple, ça vient de là aussi. T'sais, c'est quoi Raving Rabbids, ben c'est Mario qui va se réactualiser pour la jeune génération. Ouais. Les enfants qui ont 6-10 ans aujourd'hui, qui sont pas nés avec Nintendo en 85, en 90. Donc Nintendo, ils ont eu ces deux publics-là. La génération de Nintendo, hein, il y a vraiment un effet générationnel. Quand Nintendo est arrivé en Amérique du Nord avec la NES en 85 jusqu'en 95, là, à partir des 90, il y avait Sega qui venait un peu brouiller les cartes et tout ça, mais il y a toute une génération qui a grandi avec la domination économique et culturelle de Nintendo, qui a mis son empreinte sur qu'est-ce que c'est le jeu vidéo, c'est des affaires pour les enfants, c'est pas de violence, pas de sexualité, pas de, etc. Donc, ils ont vraiment fidélisé une génération qui, aujourd'hui, a l'âge d'être parent. Et là, aujourd'hui, quand ils sortent leur jeu rétro, quand ils sortent la NES classique et tout ça, ben oui. Des gens comme moi, puis Chris, puis probablement toi, ouais. Jean-Michel, on regarde ça puis on dit « Ah, enfin, on market mon enfance ». Mais là, on se dit, ouais, mais tu sais, c'est mon enfance cheap. Puis là, les plus geeks vont dire, ah, je pourrais me faire un Raspberry Pi et un émulateur, puis ça serait mieux. Puis là, bon, tu sais, mais c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Moi, je pense, puis je soupçonne que l'idée de la NES classique, la Super NES classique, c'est d'avoir une petite boîte fermée, pas compliquée, que tu branches dans ta télé pour que tu puisses montrer à fiston, puis à fillette, puis à ton petit-fils, puis à ton petit-cousin, puis tout ça. Hé, hey, regarde, ça, c'est des jeux que moi j'avais quand j'étais jeune. Joue à ça. Et éventuellement, leur mettre dans leur chambre quand ils vont être ados puis qu'ils vont avoir une télé dans leur chambre, pop, montre la NES classique ou la SNES classique, puis tu sais, tu vas pouvoir jouer à des petits jeux, c'est pas compliqué, il y a pas de contenu offensant sur YouTube ou sur des émulateurs en ligne avec des pubs de porno que tu vas avoir à tout bout de champ. Ça fait que c'est des environnements contrôlés stricts, mais qui vont permettre de faire ça. Puis Mario qui débarque chez les lapins crétins, je veux dire, quoi de mieux pour intéresser et rendre actuel Mario pour une génération d'enfants. Et en même temps, il y a Zelda Breath of the Wild, qui est clairement pas un jeu pour enfants.
Non. Ah non.
Tu joues à ça, c'est complexe. Tu ramasses des matériaux, tu fais du crafting, c'est dur. Tu sais, je veux dire, faut que tu boives tes potions, faut que t'aies un certain âge là, pour jouer à ça. Là, oui. Fait que ils font des jeux pour les adultes, ils vont faire des jeux pour les enfants, puis ils vont continuer à miser sur le créneau intergénérationnel.
N'empêche que les jeux pour les adultes restent avec des thématiques qui restent enfantines un petit peu quand même, par exemple. Puis ça, ça va rester toujours, je pense, dans leur mentalité d'entreprise de rester family friendly.
Ouais.
Peut-être que moi aussi, en tant que gamer, je change, puis je veux des trucs qui sont un petit peu plus noirs, un petit peu plus gritty.
Ouais. Oui,
c'est très possible aussi que ce soit pas nécessairement Nintendo qui fait quelque chose de mal, mais c'est moi qui évolue aussi dans mes goûts. Puis dans,
oui, je pense à Maxime Raymond parlait de pas Splatoon,
Splatoon, oui.
Le Splatoon 2 qui vient de sortir,
ouais.
Il est comme, c'est un shooter, inquiète-toi pas.
Ouais.
C'est un shooter, mais tu shoots de la peinture.
Exact.
Tu peintures une place. Puis là, c'est comme, ah oh, wow, c'est intéressant comment il y a eu une entente sur...
Ça, on va faire un jeu de tir, mais
c'est ça, exactement.
Justifié, là.
Ouais.
Ça, c'est vraiment une vague. Hein? C'est comme Plants vs. Zombies, Garden Warfare, que tu peux jouer sur PlayStation en ligne. C'est un shooter en ligne, puis c'est un bon shooter en ligne. Là. C'est, les mécaniques sont complexes, il y a des classes, c'est Team Fortress, mais avec des plantes, puis des zombies humoristiques. Fait que tu peux jouer avec les enfants. Mais... Ça, Nintendo vont faire ça, puis ils vont pas développer des jeux matures, puis des jeux horreur eux-mêmes. Là. Si ça se trouve, ils vont en refaire faire par des partenaires. Par exemple, Silicon Knights qui avait fait Eternal Darkness sur GameCube.
Un excellent jeu.
Ouais. Un excellent jeu. Ça, c'était la période où Nintendo, après l'échec, après la fin de la Super NES puis la PlayStation puis tout ça, ils se sont dit ok, là c'est le temps d'être des badass, on va être des tueurs nous autres aussi. Je parle de ça dans mon livre, leur attitude change, ils se disent ok, on va faire Killer Instinct, puis là au lieu de vendre des pyjamas Mario, on va vendre des manteaux de cuir pour faire de la moto à l'effigie de Killer Instinct. Ça, c'était leur période un peu rebelle là, genre Vanilla Ice qui commence à
leur adolescence, mais sur 120 ans. Fait que c'est comme, je suis désolé, c'est la fin de l'émission, mais je suis pas du tout désolé parce que je viens de passer une heure assez exceptionnelle avec vous autres. Est-ce que vous avez comme dernier, Chris, t'as-tu un dernier truc à dire?
Non, absolument.
T'as vraiment regardé avec plein de
j'aurais continué pendant une autre heure.
Ben oui, c'est ça.
C'est ça à chaque fois, Jean-Michel.
Absolument fascinant. Dominique, répète le titre du livre, s'il te plaît, pour les auditeurs. Allez lire ça, c'est fou, là.
Donc, le titre du livre, Superpower, Spoonie Bards and Silverware, The Super Nintendo Entertainment System, dans la collection Platform Studies à la MIT Press, avec beaucoup d'amour, et en même temps on s'en va vers le côté obscur de Nintendo à travers la Super Nintendo.
Yes.
Wow, c'est quand même une grosse promesse, ça, le côté obscur. On va l'écouter, Jump Error de Disaster Piece, puis je vous remercie encore énormément pour cette émission-là.
Yes sir.
Merci.